Alors je reviens sur cette pensée que dans le dialogue avec autrui, nous sommes appelés à avoir une écoute du cœur, une écoute avec le cœur donc, et du cœur de l'autre. Et j'avais dit la dernière fois que nous pouvions donc avoir cette écoute avec une clairvoyance. Saint Paul en Philippiens 1,9 parle d'une parfaite clairvoyance. Cette parfaite clairvoyance qui est un fruit de la charité quand elle est vraiment brûlante et que l'on peut vérifier dans la vie des saints quand on disait en tout cas habituellement qu'ils lisaient dans les âmes. Encore que ça pourrait être un charisme particulier aussi, il faut voir. Mais en tout cas, il y a une parfaite clairvoyance qui est proposée à tout baptisé, sans qu'il soit nécessaire donc d'avoir un charisme particulier, au sens où saint Paul dit « L'homme spirituel juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne. » 1 Corinthiens 2,15. Donc l'homme spirituel, c'est l'homme qui vit selon la vie de l'esprit. C'est pas l'apôtre, c'est pas celui qui, serait nécessairement même établi dans l'état de sainteté, mais c'est l'homme en tant qu'il est mû par l'esprit, avec les 7 dons de l'esprit dont nous avons parlé. On pourrait dire que ce qui est en jeu là, c'est la vocation prophétique de tout baptisé. Parce que le prophète, vous savez, dans l'Ancien Testament, la première manière de parler du prophète, Samuel, on l'appelle le voyant. Bien, être sous la mouvance de l'esprit de vérité, c'est être voyant, entre guillemets. Mais de la lumière de Dieu, pas de la lumière d'une sensibilité médiumique naturelle. Ou dû à des pratiques occultes. Et donc, j'insiste là-dessus pour dire que dans le dialogue, l'Esprit Saint peut nous faire voir les sentiments cachés de la personne, même cachés à elle-même. Et à ce moment-là, nous pouvons percevoir le combat intérieur que vit la personne. Peut-être celui de l'orgueil, ça peut être celui du désespoir, ça peut être celui de l'impureté. Et alors j'insiste là-dessus parce que au fond, nous aurions peut-être quelquefois tendance à penser qu'évangéliser, c'est nécessairement annoncer les vérités de la foi au sens dogmatique du terme, je dirais au sens du credo, en oubliant que dans l'évangélisation, il y a aussi le Christ en tant qu'il est vérité de vie. Je veux dire que les exigences de la justice divine font partie de l'évangélisation. Quand Saint Jean-Baptiste dit à Hérode « Tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère », il évangélise. Même si apparemment il se situe purement sur le plan moral, mais il dit ça parce que c'est la justice de Dieu qui est en cause. Et donc, évangéliser, ça peut être aussi appeler la personne à se convertir sur un plan qui est celui de la justice, de ce qui est juste devant Dieu, même si on ne prononce pas le nom de Dieu. Et donc, par rapport à ça, il est d'une extrême importance de percevoir le véritable appel à la conversion qui est chez l'autre. Pas se tromper. Parce que si l'autre exprime quelque chose de son mal-être, mais comme nul n'est bon juge sur soi, qui ne va pas au fond des choses par rapport à sa situation, eh bien, on pourra peut-être lui dire « Oh, mais écoutez, il ne faut pas vous inquiéter comme ça. Je me souviens d'une personne comme ça, une bonne mère de famille qui était venue me voir en exprimant son inquiétude par rapport à sa fille qui... c'était peut-être son fils qui manifestait des tendances homosexuelles. Et en fait, j'ai un moment, j'ai été éclairé par Dieu, j'ai perçu que son vrai combat, c'était la culpabilité. En fait, elle se culpabilisait par rapport à son fils, c'était pas tant l'avenir de son fils que son problème réel, c'était sa culpabilité. Donc je pouvais toujours essayer de la rassurer en disant, écoutez, votre fils, il pourra, moyennant tout un chemin avec le Seigneur, peut-être un jour trouver un équilibre. Ça, ça ne fait rien. Parce que sa question de fond, c'était ma responsabilité. Il ne faut pas se tromper de combat. On écoute, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à ce que dit la personne. C'est clair, mais quand il s'agit de percevoir finalement à la place d'une certaine manière de l'autre l'appel à la conversion que lui n'entend pas, et ensuite de transmettre cet appel à la conversion, c'est impossible sans l'Esprit Saint. C'est lui et lui seul qui sonde les cœurs, qui fait la lumière. On peut vivre ça, vous voyez, par rapport à des personnes qui ne sont pas croyantes, donc qui n'attendent pas qu'on leur dise les choses sous l'angle de la relation à Dieu. Mais quand Jean-Baptiste dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, et encore une fois, il ne se réfère pas explicitement à Dieu. Et ici, il me revient une petite remarque du père Thomas Philippe, disant que bien, il ne fallait pas nécessairement dire toutes les belles choses que l'on vivait ou que l'on sentait dans son cœur à des gens qui n'étaient pas en état de les recevoir. Et il disait par rapport à des gens qui venaient à lui et qui se disaient athées, souvent il était amené à leur proposer d'être un peu plus simple et vrai dans leur vie. C'est-à-dire de lâcher un peu leur personnage. C'est-à-dire que le père Thomas Philippe était très, sensible à la distinction entre la vraie personne et la personnalité psychologique et le personnage qu'on peut être amené à jouer. Il leur proposait, souvent, au lieu de leur faire la morale à un niveau sexuel, par exemple, bien, lui, souvent, était poussé, c'était aussi sa grâce propre, hein, il était d'une grande simplicité, il était poussé à leur proposer un chemin de vérité, c'est-à-dire aussi d'humilité, d'être plus, de vivre plus selon leur cœur, au fond. Et qu'est-ce que Jésus dit dans l'Évangile ? Il dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Moi, pendant longtemps, ça m'a un petit peu... c'est-à-dire choqué, mais étonné, que Jésus ne dise pas d'abord « Ayez foi en la bonne nouvelle du royaume de Dieu » et ensuite vous pourrez vous convertir. Mais qu'il dise « Convertissez-vous et croyez ». Parce que en bonne théologie, je ne vais pas faire des leçons à Jésus, hein, mais la foi est la base de tout. Donc on aurait tendance à dire, à mettre le « croyez » en premier. Si Jésus dit « convertissez-vous », c'est en fait pour nous faire comprendre que l'acte de foi, il est aussi lui-même, donc il est lui-même un don de Dieu, vous le savez bien, et qu'il se prépare. Et qu'il se prépare notamment à travers un chemin de conversion. Conversion du cœur, mais aussi, vous savez bien que dans la tradition de l'Église, on parle des préambula fidei, des préambules de la foi, c'est-à-dire c'est l'Esprit lui-même aussi qui a besoin d'être éclairé pour que adhérer à la bonne nouvelle, il faut que son esprit fasse un chemin qui lui permettent d'entendre cette bonne nouvelle. C'est ainsi qu'on peut être amené, pour certaines personnes, à leur faire vivre, j'allais dire, tout un parcours philosophique, ne serait-ce que pour les amener à comprendre que la foi n'est pas en contradiction avec les exigences de la raison. Il y a des personnes qui en ont vraiment besoin pour se convertir, c'est plutôt les intellectuels. Mais j'en ai connu qui m'ont avoué qu'ils ne se seraient jamais convertis si, par exemple, ils n'avaient pas fait de métaphysique. Bon, mais le plus souvent, l'obstacle à la conversion, à la foi, il est plutôt de l'ordre de la conversion du cœur. Et la conversion du cœur elle-même, elle n'est pas dissociable du changement de vie. Et donc, on peut être amené à donner à des personnes des petites lumières sur la manière dont ils pourraient mettre un peu d'ordre dans leur vie. Ça peut être de mettre un peu d'ordre dans leur chambre. Non, mais c'est parce qu'on ne connaît pas les voies de Dieu, vous voyez. Le Seigneur peut leur demander de faire un petit effort sur un certain plan qui apparaît comme ça tellement loin de la vie de la foi, mais qui n'est pas si loin que ça, dans la mesure où c'est peut-être un point de conversion dont le Seigneur a besoin pour leur donner des lumières. Là, il faut beaucoup de patience. Je dois dire que c'est ce qui me manque le plus dans l'accompagnement des personnes, personnellement la patience, parce que c'est vrai qu'il y a un côté de pédagogie là, dans le concret, qui fait que les gens cheminent, et puis un jour, ils plongent dans le mystère. Je vous dis ça, voyez, dans le sens d'un chemin de conversion, pas d'un chemin de développement personnel. Parce que ce serait une grave erreur que de penser que la personne doit parvenir à un certain épanouissement humain pour ensuite trouver le couronnement en Dieu. Moi, je ne dis pas ça. Quand je dis ça, c'est à peine caricatural, hein, parce que moi j'ai entendu pendant toute mon enfance, il faut être humain avant d'être chrétien. Ben, si on fait ça, on fait de la morale, mais de la morale pour se construire soi-même en tant qu'homme, et on voit bien dans les programmes qui sont conçus comme ça, qu'en réalité on n'arrête pas de faire de la morale, ou de la psychologie, ou un chemin de guérison. Mais en fait, les gens sont refermés sur eux-mêmes parce qu'ils sont en recherche d'une réalisation d'eux-mêmes. On les induit dans le sens d'une réalisation d'eux-mêmes. En dehors de Dieu, sous-entendu qu'après, ils pourront trouver Dieu. Mais vous voyez bien que dans le contexte actuel, amener les gens à se dire, écoutez, réalisez d'abord, trouvez-vous en tant qu'homme, et puis ensuite vous pourrez vous ouvrir à Dieu, c'est les induire dans le sens du péché originel, c'est-à-dire la réalisation de soi par soi, en définitive, pour soi, en dehors de Dieu. Ça n'a jamais conduit à Dieu, ça conduit plutôt à un enfermement encore plus grand. Attention. Et donc, ici même, je pense à un bon psychologue chrétien, il doit amener les gens à remettre de l'ordre dans leur vie, mais pas par le langage, les induire à vouloir se réaliser eux-mêmes par eux-mêmes. Parce que là, on travaille contre la foi. Travaille pas pour la foi. Ça veut dire que c'est subtil, mais tout est subtil dans la vie spirituelle. Jésus dit convertissez-vous, il dit pas construisez-vous. J'étais bien placé quand j'étais aumônier du Saint-Tibériade, centre d'accueil pour les gens atteints du sida. J'ai connu, je peux dire, le niveau extrême de la déstructuration, c'est-à-dire la prostitution homosexuelle dans le cadre de relations sado-maso, et vous y rajoutez la drogue et le sida. Vous voyez un enfer plus grand que celui-là. Bon, j'étais témoin que ces gens-là étaient touchés par la grâce. Alors là, évidemment, si on les avait envoyés dans un programme de développement personnel, ça n'aurait peut-être pas accueilli à l'entrée. Parce que de toute façon, c'est des gens dont tous les thérapeutes désespèrent. Et que Jésus qui désespère pas d'eux. Donc c'est clair qu'il y a des personnes qui sont touchées par la grâce alors que leur humanité est complètement détruite. Reste le cœur. Et donc, ceux qui disent au nom de l'adage thomiste que la grâce suppose la nature, ce qui n'a jamais été un dogme de la Sainte Église catholique d'ailleurs, entre parenthèses, mais un adage thomiste, qui peut être compris d'une manière catholique, mais qui reste une option, hein, et qui doit être interprété, oui, qui doit être interprété, bon, je sais pas, là-dessus faire de développement, mais ceux qui ne cessent de répéter la grâce suppose la nature, je voudrais bien les voir confrontés à ces gens-là. Bon. La grâce suppose la nature, c'est Marie-Madeleine, prostituée, sept démons. Oui, parce que j'ai oublié, certaines personnes que j'ai connues étaient possédées en plus.
Qui ?
Possédées en plus d'homosexuels, prostituées, droguées, sidérées. Oui. Bon, voilà. Comme ça, on a le top. Hein. Bon. Donc, eh ben, Jésus est le plus fort. Mais les chemins de Dieu sont divers. Il y a des personnes qui, elles, sont appelées non pas à se construire elles-mêmes en dehors de Dieu avant de rencontrer Dieu, mais à se convertir concrètement sur des plans de vie différents. Et le travail psychologique peut être au service de cette conversion. À ce moment-là, on rentre dans l'axe du Christ. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et vous voyez, si le thérapeute lui-même, le thérapeute ou l'évangélisateur, entre guillemets, est lui-même quelqu'un en quête de sa propre réalisation, eh bien, cet esprit qui en définitive un esprit d'orgueil, d'affirmation de soi par soi, contamine l'autre. Et il peut toujours porter l'étiquette chrétien, ce thérapeute ou cet évangélisateur, en réalité... Il transmet un esprit qui n'est pas un esprit de conversion, mais plutôt un esprit d'auto-réalisation ou d'auto-rédemption. C'est des considérations qui font que quelquefois on hésite à envoyer des personnes chez des thérapeutes, même qui se disent chrétiens, parce qu'on ne sent pas toujours qu'ils soient dans cette recherche d'abord d'aider les personnes à se convertir en profondeur pour l'ouverture à Dieu, mais plutôt dans la préoccupation toujours de la réalisation de leur humanité, avec éventuellement un peu de Dieu en plus, parce que ça peut toujours aider. Et là, c'est encore pire, c'est-à-dire on met Dieu au service de la réalisation de l'humanité. Alors que l'homme ne se trouve qu'en se perdant lui-même, qu'en se sacrifiant à Dieu. Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la trouvera. Bon, je ne pensais pas vous parler de ça, mais ça sort à cette occasion, parce que vous voyez aussi que peut-être sous l'influence, vous voyez, de l'esprit dans lequel est mené, ça c'est un autre plan, mais penser à la manière dont est vécue l'évangélisation du côté de nos frères évangélistes. Eh bien, penser que pour eux, ben c'est Luther en définitive, hein, l'homme est sauvé par la foi seule. Donc cet aspect de conversion du cœur et de la vie, ils ont du mal à le percevoir comme étant, pouvant être nécessaire à une vraie foi, à un vrai acte de foi. Et donc on arrive à des situations, là c'est différent, vous voyez, c'est... On annonce Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus, jusqu'à ce que les personnes, finissent par adhérer, parce qu'il y a tout un emballage qui peut être séduisant, mais ça ne veut pas dire qu'elles aient vraiment adhéré à Jésus, on veut dire. mais en tout cas pris par le mouvement, on voit des jeunes qui, notamment dans la banlieue, qui rentrent comme ça dans des groupes évangélistes, mais il n'y a pas eu de conversion dans leur vie. Conversion du cœur par rapport à des plans particuliers, des plans. Alors, je veux bien qu'il y ait un commencement de foi, mais ça ne tient pas. C'est l'inverse. Articuler conversion et adhésion de la foi, quand je dis conversion, c'est renoncement au péché. Le chemin de la pénitence. Et on pourrait traduire les paroles de Jésus, faites pénitence et croyez à la bonne nouvelle. Cet aspect de la pénitence, il n'existe pas dans la tradition entre guillemets protestante. Mais nous sommes appelés, au fond, pour dire les choses sous l'angle de la pénitence, un bon thérapeute, un bon éducateur, c'est quelqu'un qui s'inscrit à l'intérieur d'un chemin pénitentiel. Parce qu'en réalité, et c'est une bonne nouvelle que je vous annonce, c'est toute la vie chrétienne qui est une longue pénitence. On est sur terre pour faire pénitence, se purifier. On dit on fait son purgatoire sur terre. C'est toute la vie qui est un chemin de purification, un chemin de conversion. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire on peut réellement se purifier, se renouveler en profondeur. C'est ça la pénitence. C'est le chemin du renouveau. Du renouveau de tout l'être par la conversion, qui nous permet de vivre vraiment d'une vie nouvelle, pas simplement d'adhérer par un acte de foi qui en définitive peut se passer uniquement au niveau de la tête. Pour que l'adhésion, vous voyez, soit une adhésion intérieure du cœur en profondeur, une adhésion finalement de toute la vie, ça suppose qu'en même temps on se convertisse, mais ça va de soi en fait si on y réfléchit. Sinon, on transforme notre religion d'amour en une idéologie. Et on n'évangélise pas, on fait du prosélytisme. Une personne très sage, par rapport à un musulman qui se posait des questions, par rapport à la foi chrétienne, lui a fait comprendre que l'important, ce n'était pas de changer de religion, mais de changer son cœur. C'est-à-dire qu'il cherche d'abord à changer son cœur et Dieu l'éclairera et il pourra faire le choix du Christ. Mais c'est plus facile de changer de religion que de changer son cœur. Mais on peut très bien amener un juif, un musulman à changer de religion sans qu'il ait changé son cœur. Parce qu'il y a des techniques, entre guillemets, qui marchent, entre guillemets, mais jusqu'à un certain point seulement. Donc si vous voulez, dans le dialogue avec la personne concrète, de sentir là où est son combat, là où sont les vrais besoins de son âme, tels que Jésus les voit, et le moment où il en est dans son chemin, et le pas qu'il doit faire, au lieu d'avoir... de projeter sur lui la manière dont on voit le chemin spirituel, de pouvoir vraiment se faire tout à tous, comme dit saint Paul, et d'accepter de se situer sur un niveau qui n'est pas nécessairement spirituel au sens où on l'entend, au sens étroit du mot, mais qui s'intègre dans un chemin spirituel parce que c'est un chemin de pénitence. Comme je l'ai dit la dernière fois, par rapport à cette, là on pourrait dire presque accompagnement des personnes sur le chemin qui conduit à Dieu, le secret c'est toujours l'humilité, c'est-à-dire on ne guide pas nous-mêmes la personne sur ce chemin, on est fidèle à ce que Dieu nous donne de voir. et on tâche de dire la vérité de son cœur, comme dit le psaume, l'homme qui dit la vérité de son cœur, purement et simplement. C'est comme ça que l'on peut lui communiquer la parole de Dieu, purement et simplement aussi, parole de Dieu qui passe par nos lèvres, sans prendre nécessairement une forme religieuse, entre guillemets. Je vais vous citer un livre et vous allez essayer de deviner qui l'a écrit. Tout labeur donne du profit, le bavardage ne produit que disette. Non, c'est le livre des Proverbes. Enfin, l'auteur, c'est Dieu.
Ou l'inspirateur.
Non, l'auteur. L'auteur, l'inspirateur. Oui, mais c'est l'auteur, le premier auteur des Écritures, c'est Dieu, et puis il y a l'homme aussi. Mais c'est Dieu qui a écrit ça. Et vous voyez, il ne parle pas de Dieu. L'homme prompt à la colère fait des sottises. C'est Dieu qui parle. Vous rencontrez quelqu'un qui a un problème par rapport à la colère, vous lui dites, l'homme prompt à la colère fait des sottises. Vous lui annoncez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce sont des paroles de sagesse qui sont là pour nous aider à réformer notre vie, à nous convertir. Et dans le livre des Proverbes, c'est très rare qu'il soit question de Dieu, explicitement. En fait, tout est dit dans la lumière de Dieu. Mais on est au niveau, vous voyez, de paroles qui sont là pour aider les humains à se convertir comme Dieu veut qu'ils se convertissent. Donc la parole de Dieu, c'est aussi ça. Moi, une parole qui me vient souvent et qui touche habituellement les gens dans le livre des Proverbes, c'est cette parole-là, vous voyez, « Plus que sur toute chose, je veille sur ton cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. » C'est Proverbe 4, 23. Et vous avez affaire à une personne qui n'est pas du tout, qui se dit pas du tout intéressée par Dieu, au lieu de faire du forcing, mais par contre, elle vous sentez qu'elle est sur un chemin d'intériorité, en tout cas qu'elle a une aspiration et qu'elle n'arrive pas à trouver ce chemin, et vous lui dites plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. La personne peut être touchée par cette parole sans adhérer encore au Christ. Parce que ce sont des paroles de sagesse qui peuvent parler à tout homme de bonne volonté et l'amener à voir ce qu'il doit changer dans sa vie. Je vous dis ça d'autant plus que la dernière fois, je vous ai raconté le témoignage, la conversion d'un musulman par le témoignage de miséricorde d'un pasteur qui priait pour ses ennemis et qui n'avait pas du tout parlé du Christ à essayer de convertir ce médecin iranien. Lui, le pasteur était irakien. Et je dis ça, il y a Frédéric Marcbal qui donnait l'exemple. Père Frédéric Marcbal, qui est responsable pour le dialogue avec les musulmans à Paris maintenant, disait que souvent un des chemins de conversion, enfin plutôt disons d'adhésion à la foi des musulmans, c'était la sagesse, des écrits de sagesse. Ils sont touchés par la sagesse. Voilà, les orientaux, de manière générale, la culture orientale, plus attiré par des paroles de sagesse que par des précisions de doctrine morale. Au sens, vous savez que dans le judaïsme, il y a deux courants. Il y a le courant qu'on connaît bien, légaliste, enfin légaliste, celui qui essaye, grâce au Talmud, de respecter la Torah, mais d'une manière de plus en plus exigeante, si je puis dire, avec toutes les prescriptions qui sont rajoutées au texte de la Torah, dans le Talmud. Donc ça, c'est les pharisiens comme on les voit dans l'Évangile, hein, c'est ce courant-là. Mais il y a aussi, en parallèle, il y a toujours eu un courant qui était plutôt rattaché au livre, à ce qu'on voit dans les livres sapientiaux, c'est-à-dire une recherche de sagesse. Il y a actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui iraient, qui commenceraient à se tourner vers le Christ si on pouvait leur annoncer la sagesse contenue dans les Écritures. Je pense que le monde asiatique serait touché si cette sagesse pouvait se révéler davantage à eux. Ça pourrait être plus intéressant, vous voyez, que de se braquer sur des questions de morale sexuelle. Aussi, on annonce la bonne nouvelle de la morale sexuelle, parce que ça fait partie de la justice divine, j'ai rien contre la morale sexuelle, normalement c'est même ma spécialité, mais vous comprenez qu'il y a des choses qui peuvent être en premier abord plus attractives, notamment des paroles de sagesse, à l'intérieur desquelles on peut comprendre le sens véritable de la morale sexuelle. Vous voyez, là, ici, il y a une question de percevoir aussi le chemin, les preambula fidei, le chemin par lequel l'intelligence de la personne et sa sensibilité vont être attirées et vont lui permettre de faire un chemin à la fois dans son cœur et dans son intelligence pour s'ouvrir finalement à la personne même du Christ qui se cache derrière tout ça, si je puis dire, parce que notre sagesse, en définitive, c'est le Christ, celui qui accomplit pleinement toutes ces paroles de sagesse contenues dans les livres sapientiaux de l'Ancien Testament, c'est le Christ. C'est pas pour rien d'ailleurs que, du point de vue historique, le dernier livre de l'Ancien Testament écrit avant le Christ, ne l'oublions pas, 50 ans avant le Christ, c'est le livre de la sagesse. Qui a donc précédé immédiatement la venue, la révélation de la sagesse incarnée, qui est le Christ, le Verbe fait chair. Vous voyez, il y a des paroles, je tombe là sur Proverbe 5, 18. Quelqu'un, tombé sur quelqu'un qui est... tenter de divorcer. Vous tombez sur Proverbe 5, 18. Trouve la joie dans la femme de ta jeunesse, biche aimable, gracieuse gazelle. J'ose à peine vous lire le reste. En tout temps que ses seins t'enivrent, c'est Dieu qui parle, sois toujours épris de son amour. Pourquoi mon fils te laisser égarer par une étrangère et embrasser le sein d'une inconnue? Vous voyez, c'est quand même plus agréable à entendre que certains préceptes. Ben oui, hein, c'est ce que j'ai trouvé chez Dieu de plus provocateur, pour rien vous cacher. Hein. Quand on lit ça, on se dit, bon, je ne vais pas prêcher là-dessus quand même. À la messe, parce que les gens ne comprendraient pas. Mais pourtant, vous voyez, c'est pas un truc érotique, ce sont des paroles de sagesse. Trouve ta joie dans les joies du mariage, c'est moi Dieu qui ai donné ça, mais trouve si bien ta joie, tu en as besoin, bon, et va pas chercher ailleurs. Ce qui suppose que du côté de la femme, il y a une certaine disponibilité aussi. Femmes qui ne laissent pas leur mari jouir des joies du mariage, l'Église dit ben, c'est pas bien, parce que ça a été voulu par le Créateur, la preuve, Proverbe 5, 18. Ben, écoutez, ça c'est quand même un aspect de la parole de Dieu, qu'on peut dire, qui n'est pas très clairement mis en évidence. Je pense que si les jeunes ils entendaient ça, ben, ça les ferait réfléchir sur ce qu'est vraiment le christianisme, un grand oui à la vie. Bon. En réalité, on ne peut pas calculer, nous, ce qui va rejoindre l'autre et le rejoindre là où il en est dans son chemin de conversion et son long cheminement vers la foi. Et donc, je reviens sur cette idée que le secret ici, c'est l'humilité, l'humilité dans l'acceptation d'être serviteur en disant la vérité que Dieu nous montre, nous fait voir dans notre cœur. Hein. On s'inscrit dans un travail qui est mystérieux, qui est celui du cheminement des âmes vers Dieu, hein, qui est propre à chaque âme. Je dis chaque âme pour employer un langage traditionnel, mais ce serait mieux en réalité de dire propre à chaque personne, parce que c'est tout l'être qui est en jeu dans son chemin de conversion. Et je dirais, on s'inscrit dans un chemin qui ne sera jamais le nôtre, c'est là où il se vérifie, les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes. Donc l'humilité, ici, encore une fois, ça consiste à accepter d'être le serviteur qui ne sait pas ce que fait son maître. Même s'il perçoit quelque chose dans le cœur de l'autre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il maîtrise la situation, si je puis dire. Il perçoit autant qu'il est nécessaire pour dire la parole que l'autre a besoin d'entendre, mais qui produira un fruit que nous ne pouvons pas calculer. C'est peut-être par rapport à ça, vous voyez, qui est important de se dire, c'est que on parle, mais Dieu ne demande jamais de calculer les faits. Il demande de sentir dans notre cœur, en restant bien à l'écoute du cœur de l'autre, le moment favorable, et on sent, vous voyez, il y a le moment de la perception, et puis le moment où on sent le moment de dire ce qu'on perçoit. Toute perception n'est pas bonne à dire tout de suite. Et puis aussi, il y a la manière dont cette perception doit être dite, exprimée en termes spirituels, les réalités spirituelles que l'on perçoit. Non seulement c'est l'Esprit-Saint qui nous donne de voir, mais c'est l'Esprit-Saint qui nous donne d'exprimer de manière tout à fait juste. C'est-à-dire là, c'est un travail extrêmement délicat, il y a le mot que la personne a besoin d'entendre, qui va le rejoindre dans sa sensibilité, dans sa culture. Donc il ne suffit pas de voir, il faut trouver, enfin plutôt, il faut laisser l'Esprit Saint nous inspirer l'expression de ce que l'on voit. Et souvent, vous voyez, entre le voir et l'expression, précisément, il va y avoir un temps d'attente, peut-être un temps de mûrissement. Et le moment où l'on va exprimer va correspondre au moment où on va se sentir poussé à parler. Et ça sort. Quand c'est mûr, ça sort. Ça sort bien, ça sort juste. Ça doit même sortir parfaitement juste. Hein. Je vous rappelle, avec les dons de l'Esprit-Saint, c'est possible. Pour que ça rejoigne parfaitement l'âme de l'autre, dans le moment précis où il est dans son chemin et que ça lui donne les mots qu'il a juste besoin d'entendre, c'est vraiment une opération d'une précision chirurgicale extrême qui demande absolument une docilité à l'Esprit-Saint. C'est pour ça que je vous ai dit, de rappeler la dernière fois, ce que montre bien clairement saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire que les dons de l'Esprit-Saint sont nécessaires au salut. Alors, lâcher prise dans le dialogue, ne pas vouloir mener l'autre, ne pas vouloir mener la conversation. En fait, ici, je pense, venu le moment d'insister sur une notion clé, qui est celle du dialogue, qui a été de plus en plus mise en valeur par le magistère, à travers l'expression notamment fameuse de Paul VI qui parlait du dialogue du salut. C'est-à-dire le dialogue qui conduit au salut. De penser que le dialogue est la voie de l'évangélisation, que l'évangélisation doit passer par le chemin du dialogue. Quand je dis le chemin du dialogue, vous voyez, je repense à ce que je vous avais cité la dernière fois. La petite Thérèse, hein. Quand je parle avec une novice, je tâche de le faire en me mortifiant. J'évite de lui adresser des questions qui satisferaient ma curiosité. Si elle commence une chose intéressante, puis passe à une autre qui m'ennuie, sans achever la première, je me garde bien de lui rappeler le sujet qu'elle a laissé de côté. Car il me semble qu'on ne peut faire aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. Alors ça, ça va de soi, hein, c'est le renoncement à soi. Elle parle ici dans le cadre de la cour de récréation avec les novices. Maintenant, appliquer la chose dans le cadre d'un accompagnement spirituel, d'une catéchèse, un petit groupe, il y a des enfants qui se mettent à parler de ceci. Bon, il faut voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lâcher-prise qui correspond au fait qu'on renonce intérieurement à mener le jeu. Alors, ça n'empêche pas la discipline dans certaines situations, on est d'accord. Hein. Ça n'empêche pas de dire, écoutez, j'ai juste 10 minutes pour vous parler. Hein. Ça n'empêche pas d'avoir des limites. Si on a un programme, bon, il faut voir comment on peut le respecter tout en étant dans cette humilité, ce lâcher prise et cette souplesse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le dialogue, pour qu'il soit un vrai dialogue, il faut accepter de pouvoir se laisser aussi enseigner par l'autre. Sinon, il n'y a pas de vrai dialogue. J'ai fait mon séminaire chez les bons pères jésuites à l'IET de Bruxelles. Et le père Albert Chapelle, qui avait fondé cet institut, quand il faisait passer les examens, il avait l'habitude de dire « Ah bien, aux élèves, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui ?» Vous voyez, ça c'est le fruit mûr d'un sens aigu du dialogue avec exercice continu de l'humilité de l'intelligence chez des très grands intellectuels. Parce qu'il était, il faisait partie des consulteurs de Rome, donc des 30 théologiens choisis par Rome pour répondre aux questions les plus pointues. Et quand il faisait passer des jeunes séminaristes, il disait, qu'est-ce que je vais apprendre de toi ? Voilà, ça c'est le top. Le top de l'intelligentsia catholique. Vraiment catholique. Mais sans nécessairement dire à l'autre, peut-être donc un non-croyant, qu'est-ce que je vais apprendre de toi ? Il faut être dans cette disposition-là si on veut qu'il puisse lui-même donc entrer dans un vrai dialogue. Je repense à la règle d'or, comme a dit aux États-Unis Benoît XVI, règle d'or de l'Évangile, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Qui de nous ne veut pas être écouté, être entendu dans la part de vérité qu'il porte? Qui de nous ne désire pas être, si je puis dire, pris au sérieux dans ce qu'il dit, dans ce qu'il perçoit? Est-ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous voulez être écouté, eh bien écoutez-les. Vous voulez qu'il vous écoute, ce jeune délinquant qui n'a ni foi ni loi, ben écoutez-le. Écoutez-le dire sa révolte, parce que peut-être que dans cette révolte, il y a une grande part de vérité par rapport à la société, par rapport à la vie, et tout ça, écoutez-le. Laissez-vous toucher, rejoindre par la vérité qu'il porte. Parce que le Verbe fait chair éclaire tout homme, et donc vous croyez qu'il peut l'éclairer. Et vous voyez, cet acte de foi aussi que l'on peut poser sur l'autre, en tant qu'il peut être pour moi-même instrument de vérité de la part de Dieu, dans une vraie rencontre, cet acte de foi que je pose sur l'autre va l'aider à donner le meilleur de lui-même. Enfin, pas le meilleur de lui-même, mais à donner la vérité que Dieu lui donne de voir à lui. Je me souviens, vous voyez, quand j'étais à l'Hôtel Dieu, une rencontre avec un musulman. Les musulmans, ils ont un lien particulier qu'il faut étonnant avec la Vierge Marie, qu'ils reconnaissent comme Vierge. Donc c'est quand même la seule femme au monde qui ait enfanté un homme tout en étant Vierge. Donc ça pose question quand même, même si c'est mis sur le compte simplement que Dieu est tout-puissant et donc il fait ce qu'il veut. Mais je me souviens d'un musulman qui, quand je lui parlais de Marie, m'a dit « Mais pour nous aussi, elle est notre mère » et puis il s'est mis à pleurer. Il n'y a pas beaucoup de catholiques qui, dans leur part de Marie, réagissent en disant « Elle est ma mère » et se mettent à pleurer comme un enfant. Ben, moi, ça m'a touché, hein, m'a évangélisé. Si vous voulez, ici, notamment par rapport à l'islam, il faut bien distinguer l'islam et puis les musulmans. Les musulmans, ils sont créés par Dieu, et Dieu travaille dans le cœur de chacun d'eux. Donc on peut ne pas être du tout à l'aise avec l'islam, officiel comme doctrine, et en même temps rentrer dans un vrai dialogue, j'ose pas dire fraternel, parce que normalement le terme est réservé ceux qui sont frères dans le Christ, c'est-à-dire ces disciples que Jésus dit « Vous êtes tous frères ». Mais, je dirais, pour reprendre une expression qu'utilise habituellement Benoît XVI, amical. Quand il s'adresse aux musulmans, il dit « Chers amis ». Donc un dialogue amical, c'est un vrai dialogue, on s'écoute l'un l'autre. On reçoit l'un de l'autre. S'efforcer d'écouter l'autre sincèrement pour qu'il puisse lui-même m'écouter sincèrement, parce que nous savons bien, si on ne se sent pas écouté, bien, on n'écoute pas non plus. S'efforcer de considérer l'autre comme plus méritant que moi, dans un esprit d'humilité, c'est toujours possible de considérer l'autre comme plus méritant que moi. S'il avait reçu les grâces que j'ai reçues, il en aurait fait meilleur usage, ça va de soi. Pour que l'autre puisse être lui-même dans une attitude d'humilité vis-à-vis de moi. J'ai eu récemment téléphoné une mère de famille qui avait enlevé sa petite fille du catéchisme parce que c'était mal à l'aise que j'ai parlé du péché, de la pénitence. Dans une feuille que j'avais donnée aux enfants, donc les parents ont lu la feuille et ils ont trouvé que vraiment c'était pas pour les enfants. Alors je lui ai dit, mais c'était sincère, hein, je lui ai dit écoutez, vous êtes la première responsable de la. de l'éducation de votre enfant. Donc moi, je ne demande qu'à être averti et pouvoir me corriger par rapport à d'éventuelles maladresses et tout ça. Et comme je disais ça sincèrement, elle m'a répondu, mais c'est pas à moi de juger ce que vous faites. Je leur ai dit, c'est pas à vous de juger ce que je fais, ce que je pensais pas d'ailleurs. Elle leur a répondu, mais j'ai quand même un mot à dire. Tandis que je lui ai dit, mais écoutez, parlez, dites-moi les choses, je suis désolé de ne pas avoir su avant qu'il y avait une difficulté. Elle a répondu, parce que j'étais dans l'humilité, elle a répondu dans l'humilité. Qu'est-ce que vous voulez, on recolle ce qu'on sait. Si on est dans la revendication, et l'autre va être dans la revendication. Si on est dans la manipulation, ben l'autre il va aussi chercher à agir par la ruse. On récolte ce que l'on sème toujours. Et ben imaginez que j'ai téléphoné en disant, voilà, je vais faire preuve d'humilité pour qu'elle-même revienne à de meilleurs sentiments. Ben, ça n'aurait pas marché parce que ça n'aurait pas été un véritable acte d'humilité. Ça aurait été encore de la manipulation. Il faut que ce soit sincère. En fait, moi, j'ai attendu le moment pour téléphoner. Je sentais que j'étais dans les bonnes dispositions parce que peut-être qu'avant, j'aurais téléphoné avec une volonté de convaincre. Bon, moi, j'avais déjà accepté par avance que cet enfant n'ait plus au catéchisme, par ma faute, entre guillemets, en tout cas par ma maladresse. Mais en tout cas, j'étais, par la grâce de Dieu, dans des dispositions d'un vrai dialogue. Et la personne m'a dit, mais je suis touché, que vous m'appeliez, que vous me parliez. J'ai dit, ben, écoutez, c'est le moins que je puisse faire et tout ça. Et puis, bon. Mais on n'obtient rien par force, de toute façon. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'il faut renoncer à forcer les portes des consciences et des cœurs, y compris par la ruse. C'est-à-dire par la manipulation. Mais il faut croire plutôt, j'essaie de retrouver le document, mais il faut croire plutôt à la fécondité de notre propre chemin de conversion. Moi, je reconnais volontiers que des maladresses avec les enfants, j'en ai fait et j'en ferai encore. Mais il faut penser que si on vit l'évangélisation d'abord comme un exercice personnel de conversion, c'est-à-dire que dans le dialogue avec l'autre, dans la relation à l'autre, avec les enfants, comme avec des personnes âgées qu'on viendrait visiter, comme dans toutes les rencontres qu'on vit ces moments de dialogue comme étant d'abord l'occasion d'un renoncement à nous-mêmes, comme la petite Thérèse le dit si bien, le passage que vous avez cité, à ce moment-là, on peut parier sur la fécondité de cette conversion personnelle. Se convertir pour aider l'autre à se convertir. J'ai entendu une parole d'une personne que je connais bien et que j'estime, mais je lui dis au téléphone un peu de manière provocatrice, où elle en était dans son chemin de conversion, comme ça. Elle m'a répondu, mais je pense qu'elle était pas bien axée dans le moment. Mais elle me répond, ben moi, j'ai pas besoin de me convertir, je suis converti, maintenant je convertis les autres. Je me suis dit, oh là là, on est mal parti. Comme j'avais des échos que ça se passait pas bien avec elle, je dirais pas dans quel lieu. C'est pas sur la paroisse, en tout cas, je vous rassure, mais personne ne s'occupait de pastoral. Moi, je suis converti maintenant, mais je m'occupe de la conversion des autres. Là. Ma magistère a toujours répété qu'il fallait, l'Église avait besoin de s'évangéliser elle-même, d'être évangélisée chaque jour pour pouvoir évangéliser le monde. Chacun de nous a besoin d'être évangélisé. Se laisser évangéliser, vous voyez, par un musulman, c'est un bon exercice. Se laisser évangéliser par quelqu'un qui n'est pas croyant, mais que Dieu nous parle à travers lui. Se laisser conduire sur un chemin de conversion à travers toute rencontre, tout ça, ça, c'est la sagesse. Et en plus, sans calcul. Et au point que Benoît XVI a rappelé que la charité, en acte, ne devait pas être faite comme un moyen d'évangélisation, entre guillemets, au sens de vouloir convaincre les autres que, voilà, nous les chrétiens, on est charitables, vous voyez, on est plus charitables que la moyenne, et donc convertissez-vous. Non. Parce que c'est plus un acte de charité. L'acte de charité, il veut purement et simplement servir l'autre dans l'amour, pour l'amour de Dieu, mais sans calcul. Ça m'a rappelé une histoire qui m'avait étonné, mais qui apparaît logique finalement, c'est-à-dire d'un groupe de jeunes, jeunes généreux, qui, en soucieux en même temps de bien d'évangéliser, qui avait mené tout un projet en Afrique dans un village pour creuser, vous voyez, du genre creuser des puits et tout ça, et qui pensait que de fait qu'il faisait cette bonne action comme ça, les gens du village allaient se convertir, évidemment, donc ils ne sont pas convertis. Non, parce que s'ils l'ont fait pour comme un moyen en vue de c'était plus vraiment un acte de charité. Je suis très exigeant en disant ça, mais Benoît XVI le dit. Un acte de charité, on aime à cœur perdu. Ça me rappelle, vous voyez, une musulmane qui se prostituait, enfin, elle faisait certaines danses dans des cabarets, enfin, plus que c'est pas des boîtes spéciales à Pigalle. Et je ne vous décris pas les scènes, parce que, il y a déjà assez de, d'images qui nous sont données pour pas avoir besoin d'en rajouter. Mais en tout cas, elle était musulmane et ça a été une des opérations, des quelques opérations réussies. On avait trouvé, il faut que je me souvienne, on avait trouvé, enfin j'ai dit on, c'était le père Francis Kuhn, curé de la Trinité, qui avait conçu un plan de fuite. Parce que évidemment il y a tout le milieu macro, tout ça. Mac. Et elle était toute étonnée qu'on ne lui demande pas de se convertir à la religion chrétienne. Parce que de fait, elle a échappé à son enfer. Vraiment pour elle, parce que la manière dont l'islam se propage, vous savez, en Afrique notamment, c'est d'abord on construit la mosquée, on y va, puis ensuite on amène du blé, et puis on donne à manger aux gens, et puis ils rentrent dans la mosquée, et puis voilà. Et ça marche en plus. Ben oui, mais pour nous ça ne marche pas. Parce que ça marche pour endoctriner, mais ça ne marche pas pour convertir. Et nous, on est appelés à convertir, pas à endoctriner. Donc, ça fait rager, hein, parce qu'on se dit, quand même, ça pourrait marcher, ils utilisent ces moyens-là, finalement, la carotte, pour adhérer à la religion. Ben non. Et elle, en fait, elle a été touchée, précisément parce qu'on ne lui a pas demandé de se convertir. Si elle fait un jour un chemin de conversion, ce sera grâce à ça. Parce parce qu'elle a touché du doigt quelque chose d'une charité vraie. Je rajouterai que nous ne sommes pas, moi en tout cas, je ne suis pas prête pour faire rentrer le plus de monde possible dans l'Église, histoire d'avoir du monde et de pouvoir dire qu'il y a plus de monde depuis que je suis là, quoi. Vous voyez ? Du genre. Hein ? La glorification personnelle, vous voyez, du missionnaire qui arrive et qui baptise, qui donne son nombre de baptisés, son nombre de gens qui vont à la messe. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez écouter ? Non, mais ton curé aime bien, normalement, quand il est curé, voir qu'il y a du monde à la messe du dimanche. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour donner Dieu au monde, même si les gens n'adhèrent pas explicitement à l'Évangile. Ils peuvent être touchés par la révélation du vrai visage de Dieu à travers une vraie charité, de telle manière qu'en réalité, ils sont évangélisés, mais ils ne rentrent pas dans l'Église pour autant. C'est plus important que l'Église rayonne le vrai visage de Dieu dans le monde que le fait qu'à force de ruses, de manipulations et de techniques bien huilées, elle arrive à récupérer le plus de monde possible à la messe le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut voir plus large que ça. Il faut que le sel scelle la terre. Le sel, il est pour la terre. Nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait le plus de sel possible, parce que là, si on fait la technique de la quantité, on va avoir du sel à fatigue. J'aimerais vous lire, et je ne sais pas si je l'ai là, mais en tout cas, dans le voyage, bon, je vous lirai la prochaine fois, de Benoît XVI aux États-Unis, il a rencontré le rabbin avec lequel il était en dialogue écrit depuis 15 ans et qu'il cite dans son livre Jésus de Nazareth. Neuer, je crois. Je ne sais plus exactement. Et donc, ils se sont rencontrés la première fois, c'est quand même étonnant, hein, une amitié épistolaire sur 15 ans. Et il attend d'être pape pour rencontrer son ami lors d'un voyage. Et ce rabbin a dit des choses mais très belles sur l'Église catholique, disant son indignation de toutes les horreurs que les évangélistes disaient contre l'Église catholique. Je trouve ça extraordinaire que ce soit un rabbin qui dénonce ces injures régulières données par nos frères, qui sont malgré tout nos frères évangélistes, qui traitent le pape d'antéchrist, qui font des prières d'exorcisme sur les personnes qui ont un chapelet. Enfin, oui, ça va jusque-là. Oui, ça va jusque-là. Ah ben on est sous l'emprise du diable pour eux. Hein. Je parle des évangélistes purs et durs. Hein. Et donc, voilà un homme qui est touché par l'Évangile. Il est touché par la charité, l'humilité, la délicatesse de Benoît XVI. Alors, le dialogue, le vrai dialogue, donc, suppose qu'on ne cherche pas à vouloir à tout prix convertir l'autre au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire que la personne va se mettre à proclamer Jésus, fils de Dieu, comme ça. Bon, évidemment, ce serait l'idéal, hein, quand on parle de Jésus. Jésus nous dit, ben, oui, vous avez raison, Jésus est vraiment le fils de Dieu, vous me l'avez démontré clairement, bon, j'y crois. Mais qu'on ait une vision, vous voyez, plus large, des choses que, bien qu'à travers tout ce qu'on est, notre manière d'être, notre dialogue, il y a quelque chose de Dieu, de l'amour de Dieu qui passe, à condition qu'on vive tout en Dieu. Ce que je dis, vous voyez, suppose, du moment où on vit ce vrai dialogue, on veut que ce vrai dialogue conduise au salut, c'est un dialogue du salut, ça suppose que tout soit fait et baigné dans la prière. Hein, c'est à ce moment-là que la charité évangélise. C'est quand elle rayonne à travers les sept dons de l'Esprit Saint. C'est-à-dire notre attitude, nos regards, nos moindres paroles laissent passer l'amour divin et d'une manière pure. On pourrait citer la première lecture de la messe d'aujourd'hui. Ayez au milieu des nations une belle conduite, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite. Simplement la belle conduite. La lumière est faite pour briller, et quand la lumière brille, bien, les hommes glorifient le Père en vous voyant. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui peuvent être touchées sans qu'on leur ait parlé explicitement de Dieu, mais qui sont amenées finalement à découvrir Dieu progressivement à travers cette belle conduite. A fortiori, combien notre conduite doit être belle quand nous dialoguons. Écoutez encore le même Saint-Pierre. Hein. Soyez toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison. C'est-à-dire là où il y a une attente. J'ose pas dire explicite, parce qu'on peut sentir une attente sans que la personne l'exprime, grâce à cette clairvoyance du cœur. On peut sentir que vraiment, c'est le moment d'annoncer explicitement Jésus. Mais soyez toujours prêts à la, on peut traduire au plaidoyer envers quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect, on peut traduire mansuétude aussi, et crainte, mansuétude et crainte de Dieu, hein, que ce soit avec douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, soit confondu ce qui décrit votre bonne conduite dans le Christ. C'est-à-dire, faites-le avec une belle un beau comportement, c'est-à-dire vraiment que ce soit la charité qui inspire et meuve tout ce plaidoyer, entre guillemets. Tout ce. Cette annonce explicite. Il y a des personnes qui voudraient que l'on enseigne au séminaire la rhétorique, à nouveau comme on l'a fait, on le faisait, je suppose déjà au XVIIe, en tout cas au XVIIIe siècle, puis au XIXe. Mais dans le contexte actuel, où on est quand même tous un peu tentés d'utiliser des techniques, parce qu'on vit dans un monde qui marche comme ça, qui ne croit plus en l'amour, mais qui croit en la technique, à mon avis, serait un peu piégé. Mais en soi, ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir des repères quant à l'art oratoire, à condition de lâcher cet art et de ne pas s'appuyer dessus. Mais dans le contexte actuel, moi, je ne suis pas tellement pour, en fait. Je préférais qu'à la place des cours de rhétorique, on donne des cours de théologie mystique, pour rien vous cacher. Que des théologies mystiques, c'est-à-dire l'art de se laisser conduire par l'Esprit Saint. L'art de vivre selon l'Esprit Saint et de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Ce qui peut aider, vous voyez, dans cette logique où on vit jusqu'au bout les exigences de la charité, et donc aussi dans la charité, y compris le dialogue, l'ouverture de notre cœur et de notre esprit à l'autre, le fait de recevoir aussi de l'autre, d'être pas simplement vis-à-vis de l'autre comme celui qui donne, qui n'a rien à recevoir, le fait de vivre jusqu'au bout les exigences d'une vraie charité, une chose qui personnellement m'a aidé à le vivre, c'est de me rappeler ce que dit Jean-Paul II. Bon, il a dit un moment que le véritable évangélisateur est la personne sainte. À la fin de sa vie, il a dit ça, mais le véritable missionnaire, c'est le saint. Nous lisons ça aussi dans son encyclique, La mission du Rédempteur. Mais à vrai dire, si on dit purement et simplement le véritable missionnaire, c'est le saint, il y a de quoi décourager quand même un peu les troupes. Hein. Mais écoutez la précision. Tout missionnaire n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté. Ouais, ça réconforte un peu. La sainteté est un fondement essentiel et une condition absolument irremplaçable pour l'accomplissement de la mission de salut de l'Église, ça c'est sûr. Mais vous voyez, tout missionnaire est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté. Ça ne suffit pas de dire, voilà, je peux évangéliser à partir du moment où je vais à la messe tous les jours, ou que du moins je m'y efforce et que je prends un temps d'adoration. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que dans l'action même de la mission, je dois m'engager le premier sur la voie de la sainteté. Se convertir pour permettre à l'autre de se convertir. À ce moment-là, on entraîne l'autre sur ce chemin. Et s'engager sur la voie de la sainteté, c'est s'engager vraiment sur la voie de la sainteté. C'est pas faire comme si on était saint pour l'autre voit qu'on est quand même bien et que voyant qu'on est bien, il se trouve qu'il soit d'accord avec nous parce que comme ça, on l'aura gagné à force de. Enfin, vous voyez, c'est pas de calcul là. C'est je suis vraiment dans une sincère et profonde recherche de conversion personnelle dans le dialogue avec tout homme. En réalité, nous le savons bien, notamment l'écoute, c'est un exercice, comme j'aime bien dire, l'écoute coûte, c'est un exercice qui est exigeant, très exigeant, qui demande beaucoup de renoncement à soi. C'est un très bon exercice de charité. Alors, je termine par un point, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par surcroît. » Alors, on peut comprendre ça, vous voyez, d'abord dans le sens que, pour moi, chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice, c'est chercher d'abord la sainteté, chercher d'abord la charité, donc chercher d'abord à me convertir moi-même, et puis j'ai confiance que le reste sera donné par surcroît. Le reste, c'est-à-dire les paroles que l'autre a besoin d'entendre. À ce sujet-là, vous voyez, je pourrais vous citer ce qu'a dit Benoît XVI aux évêques américains, qui, comme vous le savez, depuis quelques années, vivent une épreuve purificatrice, tout comme leur clergé, hein, très douloureuse. Alors, il leur fait un cours de. Il leur donne un enseignement de spiritualité. Nous devons redécouvrir, il parle de nous, pasteurs, hein, la joie de vivre une existence centrée sur le Christ, en cultivant les vertus et en nous plongeant dans la prière. Le temps passé à prier n'est jamais perdu, même si les devoirs qui nous pressent de toutes parts sont importants, l'adoration du Christ notre Seigneur dans le très saint sacrement, la contemplation des mystères du rosaire, la fidélité à la liturgie des heures, garantie que notre journée tout entière soit sanctifiée, De cette manière, la dévotion nous aide à parler et à agir une persona Christi, à enseigner, à gouverner et à sanctifier les fidèles au nom de Jésus. Cette configuration radicale au Christ bon pasteur est au centre de notre ministère pastoral. Bon, il rappelle donc l'exigence de la sainteté. Et si nous nous ouvrons à travers la prière à la puissance de l'Esprit, les dons de l'Esprit, il nous accordera les dons dont nous avons besoin pour accomplir notre devoir formidable, au point de ne jamais nous soucier pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Matthieu 10, 19. Je cherche d'avoir une de Dieu, le reste, les paroles, me sont données par surcroît. Je ne me soucie pas de convertir l'autre, je ne me soucie même pas de l'évangéliser. Je laisse plutôt Dieu se servir de la rencontre pour me convertir moi-même, m'évangéliser moi-même, et c'est de cette manière que je pourrai être instrument de conversion et d'évangélisation. Vous allez me dire, c'est pousser un peu loin le bouchon, mais vous voyez, c'est, en même temps, c'est l'évangile. Cherchez pas avec inquiétude ce que vous aurez à dire, mais comment vous le direz, mais sur le moment, c'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Je n'ai pas retrouvé le passage où Saint Jean de la Croix dit « Laisse-toi enseigner par tous et tu seras parfait ». Mais c'est une de ses maximes. Alors, relisons dans cette lumière-là des recommandations de Saint Paul en Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. C'est-à-dire de cet effort d'écoute, qui est en même temps un effort de, autant qu'on peut, de rentrer en communion avec l'autre, autant que c'est possible. Soyez bien d'accord entre vous. Alors, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. Ne figure pas être sage, dit le livre des Proverbes. En paix avec tous, si possible, autant qu'il dépend de vous. Ce qui rejoint Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors je termine par là parce que ici, il y a un point important, c'est rechercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, bon. C'est rechercher la sanctification, mais c'est aussi rechercher d'abord la communion, parce que le royaume de Dieu est communion. Communion avec Dieu et avec les autres. Et ici, je suis émerveillé de la rectitude, de la précision, de la finesse de Benoît XVI. C'est le discours du pape lors de la rencontre interreligieuse au centre culturel Jean-Paul II, donc aux États-Unis. Discours du 17 avril 2008. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Chers amis, dans notre tentative de découvrir les points communs, les points communs, c'est surtout, nous partageons une estime pour les valeurs éthiques que la raison humaine peut atteindre. Le monde demande avec insistance un témoignage commun sur ses valeurs, un témoignage commun de ses valeurs. Donc, on doit rechercher ensemble des points communs. Rechercher, vous voyez, notre tentative de découvrir les points communs. Un dialogue avec les musulmans. Au fond, c'est rechercher la communion, autant qu'elle est possible. Parce que la communion, ça suppose un fond commun. Et remarquez, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là. Et des fois, de manière un peu facile, en disant, au fond, on a le même Dieu, on n'a pas la même manière de le comprendre, mais on a le même Dieu, donc tout va bien, on s'arrête là. La tentative de découvrir le point commun. Ici, lui, se situe surtout au niveau des valeurs. Nous avons peut-être évité la responsabilité de discuter de nos différences avec calme et clarté. Voyez la finesse. Bon, voilà. C'est très important cette recherche de la communion. Autant qu'il est possible qu'on soit d'accord, soyez bien d'accord, dit Saint Paul, soyez bien d'accord entre vous. C'est important de rechercher cet accord sur des valeurs fondamentales pour promouvoir la paix dans le monde. Mais nous avons peut-être évité dans cette tentative de nous accorder sur des valeurs essentielles la responsabilité de discuter de nos différences avec calme et clarté. Alors que, écoutez la beauté de l'expression, nous unissons toujours nos cœurs et nos esprits dans la recherche de la paix. Soyez en paix avec tous autant que ça dépend de vous. Alors nous unissons nos cœurs et nos esprits. C'est-à-dire, il y a déjà une union des cœurs et des esprits qui se réalise dans cette recherche commune d'un fond commun. De rechercher ensemble cet accord sur des valeurs essentielles et vitales est déjà un chemin d'unité réelle des esprits et des cœurs. Nous devons également écouter avec attention la voix de la vérité. De cette manière, notre dialogue ne se limite pas à reconnaître un ensemble commun de valeurs, mais il se pousse en avant pour enquêter sur leur fondement ultime. Nous n'avons aucun motif d'avoir peur. Mais en réalité, dans notre dialogue sur la vérité, on a tous plus ou moins peur. Peur d'être mis en cause par l'autre, peur de la différence de l'autre. Et donc je dis ça, c'est parce qu'il y a un équilibre à trouver, vous voyez, entre cette recherche de tentative de découvrir les points communs, cette recherche des valeurs communes, mais qui ne dispense pas de la responsabilité de discuter de nos différences. Ici, on est à l'opposé de ce que j'appelle le consensualisme mou de notre monde moderne. Pour rien vous cacher, je suis plutôt allergique au consensualisme mou. Qui vient de quoi? Essentiellement du fait que la plupart des gens sont profondément insécurisés et donc ils supportent pas la contradiction et ils ont peur du conflit. Et donc ce consensualisme mou est un consensualisme hypocrite sur fond de peur. Pour dire les choses négativement. Mettre les pieds dans le plat. Ceci dit, on pourrait le prendre positivement comme étant l'expression laïque d'une recherche de communion qui vient de la culture chrétienne mais qui n'a plus de sens parce qu'il n'y a plus une véritable recherche de la vraie communion et de la vérité non plus. Voyez. Mais je repense aux paroles de Jésus. Pensez-vous, je suis venu apporter la paix sur la terre, non pas du tout, mais la division. C'est-à-dire la responsabilité de discuter de nos différences dans une recherche de la vérité qui fonde ces points communs. Et qui fait que on ne recherche pas la paix du monde. La tranquillité du monde. Mais qu'on n'a pas peur de dire des paroles qui vont provoquer des réactions, quelquefois d'opposition, mais qui sont nécessaires pour la conversion de l'autre. Je termine en relevant qu'il y a donc la peur du conflit qui nous empêche de vivre saintement cette recherche de la communion. C'est-à-dire dans, à l'intérieur d'une recherche de la vérité, et qu'il y a aussi il faut bien le dire, la peur de déplaire, c'est encore un peu autre chose. Je pense notamment quand il s'agit de personnes de notre famille ou d'amis qui nous sont chères. Écoutez Saint Paul par rapport à ce qui nous empêche de témoigner librement de l'Évangile. Dieu nous ayant confié l'Évangile, 1 Thessaloniciens 2, 4. Dieu nous ayant confié l'Évangile après nous avoir éprouvé, nous prêchons en conséquence, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Jamais non plus nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, ni une arrière-pensée de cupidité, Dieu en est témoin, ni recherché la gloire humaine, pas plus chez vous que chez d'autres, alors que nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids. Jamais un mot de flatterie. Hein. Jamais chercher à plaire aux hommes. En Galates, il dit « Je ne serai plus serviteur du Christ si je cherchais encore à plaire aux hommes. » On recherche à être en paix avec tous autant que ça dépend de nous. On recherche à découvrir les points communs. On cherche ce qui favorise la communion. Et en même temps, on est en service de celui qui est signe de contradiction et qui n'est pas venu apporter la paix mais la division. Et beaucoup. Hein. Là, il y a un équilibre, vous voyez, un équilibre à tenir qui n'est vraiment pas facile. Que seul l'Esprit Saint peut nous faire tenir, parce qu'on oscille entre le consensualisme mou et la polémique, l'esprit de polémique, d'agressivité. Suivant, en fait, nos sympathies aussi par rapport aux personnes. Bon, je pense que pour être vraiment libre dans l'évangélisation, il faut avoir fait quand même un certain travail au niveau de l'affectivité, notamment parce qu'il n'y a rien de plus gênant que le fait que cette évangélisation, entre guillemets, se déroule sur un terrain affectif, enfin miné par une affectivité non purifiée. C'est comme ça qu'on assiste à des chutes lamentables. Je ne parle pas simplement pour les prêtres, mais aussi pour des laïcs qui veulent accompagner des personnes. Je pensais à une personne, c'est une dame catéchiste qui faisait de l'accompagnement spirituel sauvage, qu'on peut appeler sauvage, au sens où c'était pas supervisé par personne, et sans que personne lui ait donné mission. Elle était mariée, elle a fait ça bien des fois, mais une fois c'était avec un homme marié, elle me disait combien ça lui apportait, et tout ça, il passait des heures à l'aider dans son chemin, voilà, parce qu'il avait des difficultés, tout ça. Puis elle a pas du tout vu le train venir. Et après des mois et des mois d'accompagnement, il a dit, mais voilà, c'était très très bien, ça m'a beaucoup apporté, on va couronner le tout en passant la nuit ensemble. Alors, on a l'impression d'évangéliser, mais en réalité, on est dans une relation affective. Et dans le cas d'une relation affective, ben, la personne, ça je vous parle, malheureusement d'expérience, mais on voit des personnes qui seraient prêtes à aller à la messe tous les jours et adorer le Saint-Sacrement jour et nuit du moment qu'on passe du temps avec elles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elles sont dans le chercher à plaire. Ben oui, stupide, mais c'est ça l'humain. C'est-à-dire, les gens, vous leur dites, mais écoutez, maintenant il va falloir vous faire baptiser, maintenant il va falloir ceci, ils sont prêts à tout. Un peu comme les musulmans qui ont repéré que s'ils se faisaient baptiser et tout ça, ils auraient peut-être plus de possibilités d'obtenir des papiers, en tout cas après ils pourraient demander au curé des papiers pour... Eh bien, ça c'est sur le plan du règlement des papiers, moi je l'ai connu, qui me faisait. J'ai tout de suite vu que c'était pas une vraie conversion, mais c'était bon. Mais il y en a d'autres qui seront prêts à faire tous les exercices spirituels que vous leur demandez du moment qu'ils gardent la relation affective. Savoir. À ce moment-là, c'est que nous-mêmes, on n'a pas été assez vigilants, pas assez, je dirais, clairvoyants et purs aussi, parce que normalement, si c'est la charité pure qui nous anime et pas une sorte de pitié humaine ou de relation, vous voyez, trop humaine, eh bien normalement, on repère justement les sentiments cachés. Et on repère que la personne, tout en nous faisant des demandes spirituelles, en réalité, n'a qu'une seule demande. La relation humaine, affective. Là, on peut dire, oui, mais vous voyez, elle est seule, elle vient de perdre son époux, elle a été plaquée par son copain. Donc, ben, oui, mais c'est pas ça l'évangélisation, c'est pas de répondre aux besoins affectifs. Alors, il y en a qui s'imaginent que en suivant un chemin. Je crois que ça vous réveille ce que je vous raconte.
Oui,
mais c'est-à-dire, c'est l'application pratique hein, de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, en suivant, il y en a qui s'imaginent qu'en suivant un chemin comme ça, qui est en réalité amical, mais dans le sens humain, ils vont amener progressivement la personne, parce qu'elle s'attache à nous, et nous, on va l'attacher à Dieu. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Elle s'attache à nous, et donc elle ne s'attache pas à Dieu. Et si elle fait des choses pour Dieu, en réalité, elle sera pour nous, donc ça compte pas, entre guillemets. Voyez, parce que le cœur, il n'est pas converti. Et Dieu, il regarde le fond du cœur. Et donc, penser que sur une base qui n'est pas sainte, qui n'est pas purifiée, dans laquelle nous-mêmes on n'est pas dans un effort de conversion pour ce qu'on se laisse aller à aimer humainement, ou à séduire humainement quelqu'un, penser que là-dessus, on va pouvoir édifier un vrai chemin d'évangélisation et de sanctification de l'autre, c'est insensé. Ce qui vient de la chair est chair, et la chair ne sert de rien, dit Jésus. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, excusez-moi de vous avoir réveillé si tard. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.